Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe du vendredi. Salut à tous les cinq.
Bonsoir, Annaïs.
Marion, votre choix de l'actu du jour.
Le retour d'Ambition Intime, l'émission où les politiques se confessent.
Eva.
Je vous emmène dans le dressing de Céline Dion.
À l'occasion de la sortie du film, Aline, signée Valérie Le Mercier, qui est un vrai faux biopic de cette méga star planétaire. Mohamed, votre story du jour.
Une Française est dans la liste des 10 meilleurs professeurs du monde. Elle va peut-être gagner 1 million d'euros. Je vous explique ce soir sa méthode révolutionnaire.
Mathieu, dans le 5 sur 5 ce soir.
Que deviennent les biens saisis par la justice aux malfrats, entre autres? Eh bien, ils étaient vendus aux enchères ce matin et nous étions sur place.
Et rapport... Thermomix. Ça rapporte de l'argent.
Ça rapporte de l'argent. À l'État notamment.
Patrick, votre édito du jour.
Pékin suffoque et la Chine continue d'aller au charbon.
Autant de sujets que l'on soumet ce soir à nos invités. L'ingénieur et expert en énergie Jean-Marc Jancovici, l'animatrice d'Ambition Intime Karine Lemarchand et l'actrice et réalisatrice Valérie Lemercier qui dîne avec nous ce soir. C'est pas du caribou qu'on lui sert malgré son amour pour le Québec et la cuisine québécoise, non. C'est du jambon préparé par Thomas Chisolm, chef du restaurant Chocho à Paris, qui est aux côtés de Marion. Mario, l'homme qui a découpé le jambon. Salut à tous les deux. Bonsoir, chef.
Bonsoir, merci. Bonsoir. Pour l'invitation. Donc là, je suis avec Mario, mon ami, qui va découper le jambon Consorcio Serrano. Et on a concocté une petite recette ensemble pour vous faire ce soir.
Merci beaucoup. À tout à l'heure, à tous les deux. Mais d'abord, l'édito de Patrick Cohen. Pendant la COP26 à Glasgow, la Chine continue sa course au charbon.
Oui, d'abord une image de Pékin ce matin, noyée dans un nuage de pollution, à peine 200 mètres de visibilité par endroit, un niveau de particules fines qui dépasse plus de 4 fois le seuil d'alerte. Explication des centrales à charbon qui tournent à plein régime dans le nord du pays. Un froid précoce qui a conduit à rallumer le chauffage chez des Chinois interrogés par l'AFP qui semblent tout ignorer de la conférence de l'ONU sur le climat. Voilà, et je rappelle que Pékin doit accueillir en février prochain les Jeux Olympiques d'hiver.
Est-ce que c'est vrai tout de même que la situation de l'environnement s'améliore en Chine?
C'est assez simple à résumer. La Chine est le premier pollueur de la planète avec un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est le premier producteur mondial de charbon, énergie qui représente la première source d'émissions de CO2 devant le pétrole et qui pèse encore pour environ un tiers de la production d'électricité dans le monde. Ce qui fait de la sortie du charbon un enjeu majeur dont on parle en ce moment à Glasgow. Deux tableaux pour mesurer l'évolution de ces 25 dernières années, les émissions mondiales de carbone, la courbe est à peu près linéaire, vous voyez que ça n'a pas cessé d'augmenter, sauf, c'est à la fin de la courbe, mais on ne l'a pas tout à fait, le trou d'air des confinements de 2020 qui a presque été entièrement rattrapé en 2021. Et puis, deuxième tableau, avec trois continents ou trois superpuissances. Les États-Unis, les émissions de CO2 descendent lentement. L'Europe, ça diminue trop lentement, mais ça descend. Tandis que la Chine poursuit son envolée à des niveaux d'émissions carbone toujours plus hauts.
La Chine ne fait aucun effort.
Alors, comme la Chine est le premier en tout, c'est aussi le pays qui investit le plus dans les énergies propres et celui qui a le plus gros programme nucléaire. Elle vient de lancer une commande de 150 nouveaux réacteurs. Mais comme ses besoins sont immenses, que le pays continue de se développer, de s'urbaniser, le charbon qui pollue est encore là pour longtemps. Il lui fournit ce charbon aujourd'hui près des deux tiers de sa production électrique. Et comme ça ne suffit pas, que le pays a été affecté par des vagues de coupes coupures de courant ces derniers mois, eh bien, il vient d'augmenter de 10% sa production de charbon, 12 tonnes de charbon extrait par jour en Chine. Et les centrales à charbon continuent de sortir de terre. 368 centrales en cours de construction. La durée de vie de ces centrales, c'est environ 40 ans. Vous voyez qu'on risque encore d'en parler à peu près en 2060.
Pourtant, la Chine a fait des promesses.
Oui, promesse d'atteindre son pic d'émissions de CO2 à l'horizon 2030, avant de redescendre. Mais pour beaucoup de spécialistes occidentaux, la date qui compte pour les officiels chinois, celle qui les obsède, c'est 2049, année du centenaire de l'arrivée au pouvoir du Parti communiste, que Pékin espère célébrer en devenant la première puissance économique mondiale, dopée en partie aux énergies carbone. Le climat passe après.
Bonsoir Jean-Marc Jancovici.
Bonsoir.
Ingénieur, diplômé de l'École Polytechnique, enseignant à l'École des Mines de Paris, président du think tank The Shift Project et auteur, avec Christophe Blin, d'une excellente bande dessinée lumineuse sur les enjeux du changement climatique, Le Monde sans fin, qui montre à quel point l'exploitation des énergies fossiles a changé le monde, l'a révolutionné, mais que ces mêmes énergies nous conduisent dans une impasse. C'est ça le grand paradoxe. Et vous l'expliquez extrêmement bien, les énergies fossiles, il faut apprendre à s'en passer, mais nous y sommes devenus accros. Accros au super pouvoir qu'ils nous offrent grâce aux énergies fossiles. On est tous des super-héros, en quelque sorte.
Oui, on a pris il y a un personnage que moi j'aimais bien prendre dans mes cours avant parce que je trouvais que c'était très parlant. Et en fait, qu'on a recyclé, ce qui est de circonstance, dans la BD, qui est Iron Man. Alors, Iron Man, en fait, incarne parfaitement ce que l'énergie nous apporte. Alors, on veut dire n'importe quoi. Enfin, moi, le matin, je mets un chemisier, un pull, etc. Je ne mets pas un costume d'Iron Man. Et alors, en fait, si. Parce qu'en enfilant vos vêtements, là, par exemple, vous avez enfilé, sans vous en rendre compte, des moissonneuses-batteuses à coton, des usines qui ont tissé, des usines qui ont filé, des camions qui ont transporté. Si vous avez des fibres synthétiques, vous avez enfilé également des raffineries, des plateformes pétrolières et tout un tas de trucs qui sentent mauvais. Donc, en fait, on enfile pour de vrai ce costume d'Iron Man, sauf que, en fait, l'image n'est pas exacte. Mais les machines qui sont partout autour de nous remplissent exactement la même fonction. Elles nous font voler très haut, elles nous font avancer très vite, elles soulèvent les plus lourdes charges pour nous, elles transforment tout et elles voient beaucoup plus loin que nos propres yeux.
Elles mixent une soupe. Et pour ça, pour mixer une soupe, ça déploie une énergie folle.
Alors c'est comme si vous aviez quatre personnes qui se mettaient à pédaler pour vous. Quand vous prenez le mixeur à soupe, là, vous savez, si vous êtes très bien payé et que vous en avez un très très gros, six personnes qui pédalent pour vous. Mais en gros, c'est ça. Vous avez un mixeur à soupe, c'est quatre cyclistes qui se mettent en mouvement et un ascenseur. Il doit y en avoir quelques-uns dans cet immeuble. C'est plutôt 50 personnes qui se mettent à pédaler dans la cave quand vous appuyez sur le bouton. Donc on ne s'en rend pas compte, mais elles sont partout autour de nous, les machines, et l'énergie est partout autour de nous.
Une énergie qui a créé un monde où le labeur et où la pauvreté ont été réduites. Des énergies qui sont partout et on est sous leur emprise littéralement.
On est un peu comme des drogués, vous savez, la drogue c'est super sympa au début, ça procure des tas de sensations très agréables et le seul problème c'est qu'il ne faut pas que ça ait des conséquences sanitaires désagréables ou il ne faut pas se retrouver en manque. Et là, en fait, les deux problèmes vont nous arriver. On va se retrouver en manque parce que les combustibles fossiles sont épuisables. Comme leur nom l'indique, elles sont fossiles, ces énergies. Et donc, il faut quelques centaines de millions d'années pour en faire. Donc, c'est un tout petit peu plus long que le temps qu'on accepte d'attendre à la pompe à essence. Et puis, par ailleurs, ça crée du changement climatique. Donc ça, c'est le dommage, c'est le parallèle avec le dommage sanitaire.
Et ce sera d'autant plus difficile de se passer de la qualité de vie que nous offrent ces énergies fossiles que notre cerveau n'est pas conçu pour se limiter, pour rétropédaler. On n'est pas fait pour la décroissance, en quelque sorte.
Alors, quand on regarde la manière dont on se comporte, d'abord, il faut rappeler qu'on n'est pas rationnel. Hein, on pilote rationnellement nos désirs. C'est très différent. Mais en fait, on est mu profondément par des désirs. Des désirs de manger, se reproduire, l'accumulation, etc. Tout ça, c'est essentiellement des désirs. Et donc, on a beaucoup de mal à trouver la pédale de frein. Donc, le fait d'arriver collectivement à se restreindre sans que des éléments externes nous l'imposent, parce que ça a été très fréquent dans le cadre des sociétés humaines, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire. Et en fait, c'est l'exact inverse. On adore transgresser les limites dès qu'on peut. Bezos, il a fait fortune, maintenant il s'emmerde, il va dans l'espace. Enfin, je veux dire, on adore transgresser les limites. On passe notre temps et vous avez fait 500 000 auditeurs, vous n'êtes pas content, vous voulez en faire 700. Donc, tout le temps. Ouais. C'est quelque chose d'extrêmement profond dans la nature humaine.
Et qu'il ne faut pas non plus réfréner, parce que ça génère du progrès par ailleurs.
Non, justement, c'est ça le problème. C'est quand on ne réfrène pas, à un moment, ça se finit par se retourner contre nous. Par exemple, si vous ne réfrénez pas la quantité que vous mangez, à un moment, ça finit par se retourner contre vous.
Et pourtant, il faudra se réfréner, on n'a pas le choix, mais ça ne se fera pas par des petits gestes.
Ça a commencé. Alors, en fait, ce qu'on explique, c'est que ça a déjà commencé à petite vitesse. Là, il y a ce qui est en train de se passer en ce moment sur le pétrole, est à regarder de très très près. Il faut savoir que les gisements pétroliers, ça s'épuise. Hein, on ne peut pas en avoir toujours plus. Mmh. Et en fait, l'Europe a déjà commencé depuis 2006 à en avoir de moins en moins. Et c'est notamment une des causes majeures qui fait qu'aujourd'hui, on a des problèmes économiques qui sont en train de s'amplifier et qui vont s'amplifier, malheureusement.
Mais vous dites qu'il faut des décisions systémiques. C'est-à-dire que nos gestes individuels, fermer le robinet le matin, prendre le métro ou la voiture, c'est bien, mais ça ne sert quasiment à rien à l'échelle planétaire.
Dans la BD, c'est pas ça qu'on dit. Dans la BD, on est beaucoup sur l'exposé du problème et on a essayé justement de trouver une fin qui soit pas trop angoissante et pas trop culpabilisante. Ah, je pense qu'on y est arrivé. Moi, j'aime bien la fin.
Non, mais
je la trouve assez poétique.
Oui,
mais donc, on est les gestes. Donc, on trace quelques directions à la fin, pas beaucoup. Mais l'essentiel de l'album, il est consacré à expliquer le problème. Les enjeux, la situation dans laquelle on est. Et comme il y a des choses un peu lourdes là-dedans, on a essayé de le faire de manière un peu humoristique, en se privant pas de quelques blagues de potache, histoire que ça passe quand même un peu mieux.
C'est-à-dire que ça ne suffira pas. Alors, ces gestes-là individuels, mais qui a un pouvoir mimétique, et que si des grandes décisions sont prises, même si l'Europe donne l'exemple et qu'elle est pour l'instant la seule vraiment à s'y mettre, même si ça ne suffit pas, peut-être qu'à force de donner l'exemple, les États-Unis, voire la Chine, finiront par suivre et par s'y mettre.
De toute façon, on n'a pas le choix, encore une fois, parce que l'Europe est dans la seringue. Je le redis, l'approvisionnement énergétique européen, de toute façon, il est parti pour baisser. Qu'est-ce qu'on consomme en Europe en termes d'énergie? Alors, quand je dis « on », c'est ni vous ni moi. Je rappelle que c'est Iron Man qui consomme l'énergie. Donc, ce qui consomme l'énergie, c'est les machines à laver, les laminoirs, les camions, les trains et la fusée Ariane. C'est pas nous. Eh bien, l'approvisionnement européen, il est à 75% fossile, pas 80, 75% fossile. Il y a du pétrole qui est orienté à la baisse, de manière contrainte, c'est-à-dire de toute façon, ça va baisser. Il y a du gaz qui est orienté à la baisse.
Et les prix vont augmenter, pardon.
Alors, ils vont augmenter jusqu'au moment où ils se remettront à baisser, parce que quand on manque de pétrole, ça casse l'économie, et donc ça rend des consommateurs non solvables, parce que vous vous retrouvez au chômage, parce que, etc. Donc, si vous êtes au chômage, vous n'avez plus besoin d'une voiture pour aller bosser, et à ce moment, vous sortez des gens du... Exactement, et le prix se rééquilibre. Donc, en fait, la manière dont on voit économiquement la baisse du pétrole, c'est pas que son prix va augmenter indéfiniment, c'est que la difficulté à trouver un baril de plus augmente, elle, indéfiniment. C'est-à-dire les investissements qu'il faut faire pour faire sortir un baril de terre supplémentaire, eux, ils n'arrêtent pas d'augmenter. Et c'est bien ce qu'on voit depuis à peu près 15 ans maintenant.
Et donc,
pour en venir, donc le pétrole baisse, le gaz baisse de manière contrainte, et le charbon baisse en Europe de manière contrainte. Donc nous, on n'a pas de mal à être vertueux sur le charbon.
Parce que vous savez
quand est-ce que la Grande-Bretagne a passé son maximum d'extraction charbonnière? 1914.
Donc ça ne fait que baisser.
Non. Ils ont remis en route des centrales à charbon ces derniers mois.
Ils importent un peu, mais... Donc en fait, en Europe, la production de charbon, elle baisse depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Elle baisse depuis 60 ou 70 ans. Donc on n'a pas de mal à être vertueux en ce qui concerne le charbon.
L'une des possibilités pour décarboner, tout en maintenant un mode de vie à peu près similaire à celui qu'on a aujourd'hui, c'est évidemment le choix du nucléaire. Oui, mais le nucléaire, c'est dangereux. C'est ce qu'affirme Yannick Jadot, candidat vert à l'élection présidentielle.
Ça, il est payé pour.
Je suis anti-nucléaire parce que un réacteur, ça peut nous péter à la figure. Rappelons-nous Fukushima, ce sont des déchets. Moi, je vois une sortie en 20 ans. Première priorité, isoler nos logements. Je propose que cette isolation des logements soit sans frais avancés. 5 à 600 euros d'économiser par an. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième priorité, déployer des énergies renouvelables.
Plusieurs questions. Le nucléaire, c'est dangereux, et est-ce que c'est possible d'en sortir dans 20 ans, comme le préconise Yannick Jadot?
Alors, si vous ne vous souciez pas de votre pouvoir d'achat, oui, c'est possible d'en sortir dans 20 ans, parce qu'à ce moment, vous supprimez l'approvisionnement électrique assez fréquemment, et donc vous n'avez pas d'opération du genou, sauf quand il y a du vent, et vous n'avez pas d'émission de télévision, sauf quand il y a du vent. Donc, si vous êtes d'accord pour ce genre de système, on peut y aller, il n'y a aucun problème. On peut sortir du nucléaire en 20 ans. Non, mais je suis très sérieux, c'est exactement ça la contrepartie. Donc, physiquement, c'est possible, puisque l'humanité a vécu sans nucléaire pendant l'essentiel, jusqu'à il y a 50 ans.
50 ans, oui.
Donc, on peut très bien le faire, ça ne pose physiquement pas de problème. Par contre, est-ce qu'on peut le faire en restant dans le monde dans lequel on est aujourd'hui? Pas une seconde. Enfin, en France. La deuxième chose, c'est le nucléaire.
C'est
20 pages. La réponse très courte, c'est non. C'est beaucoup moins dangereux que la cigarette, beaucoup moins dangereux que la voiture, beaucoup moins dangereux que les chaînes de fast-food que je ne nommerai pas, beaucoup moins dangereux que la pollution des centrales à charbon, beaucoup moins dangereux que les piscines. C'est que les piscines tuent 200 ou 300 personnes par an. Oui, les gens se noient. En particulier les gamins. Donc vous avez un milliard de trucs, beaucoup moins dangereux que les escaliers, que les électrocutions chez soi. Les accidents domestiques, c'est 20 000 morts par an. Le nucléaire ne fait pas ça. Donc le nucléaire, est-ce que c'est dangereux? La réponse est non. Est-ce qu'un accident nucléaire, c'est spectaculaire? La réponse est oui. Mais vous savez, c'est comme l'avion. L'avion, un accident, c'est spectaculaire. Est-ce que statistiquement, c'est dangereux? Non. pas très. Mais là, c'est exactement pareil en ce qui concerne le nucléaire. Alors, on a essayé de vulgariser dans la BD de quoi on parle quand on parle du nucléaire, parce que si je vous dis, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un sievert ? Parce que vous allez me dire non. C'est l'unité avec laquelle on mesure la dangerosité. Je ne suis pas sûr que vous sachiez la définir. Ce qui est normal, personne ne sait. Ça, la définition fait 3 pages. Hein. Est-ce que si je vous demande ce que c'est qu'un becquerel, je ne sais pas si vous allez...
Bah, c'est bon, des noms okay. Voilà. Avec donc, lesquels voyez, on est familier.
C'est le cours de physique
exactement. Donc, on a essayé de faire de la physique pour tous dans l'album, de manière, avec tout le talent de Christophe Blain, avec qui on s'est très très bien entendu et qui est un type qui est génial, parce qu'il rentre très très bien dans l'état d'esprit qu'il faut avoir pour expliquer ce genre de truc. Voilà, donc on a essayé d'être pédagogique et d'expliquer où étaient les vrais et les faux problèmes. Encore une fois, la réponse courte, c'est dans la situation dans laquelle on est, s'en passer augmente considérablement les risques.
Voilà. Le monde sans fin, un débat sans fin, les éoliennes, est-ce que c'est une fausse bonne idée ?
Ça dépend ce qu'on fait avec. Si vous mettez des éoliennes quelque part pour essayer de baisser la consommation de combustibles fossiles, donc par exemple de moins vous servir des centrales à gaz ou à charbon quand il y a du vent, à ce moment ça fait baisser les émissions. Si vous regardez la quantité qu'il faut en mettre, et du reste les images sont en train de vous le montrer, pour remplacer la totalité des centrales à charbon, vous allez vous rendre compte qu'il en faut quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a fait un tout petit calcul pour cette BD. Ouais. Si en France, on n'avait que des éoliennes pour nous fournir la totalité de notre énergie, y compris ce qui fait avancer les voitures et ce qui fait tourner les usines, il en faudrait une tous les kilomètres, partout dans le pays.
À la place du nucléaire, hein, des centrales.
À la place du nucléaire, du pétrole, du charbon, du gaz. Enfin, du charbon, on n'en
fait pas beaucoup.
Une par kilomètre, on cadrerait tout le pays avec une éolienne. Donc ça commence. Là, est-ce qu'on trouve toujours ça bien ? Ouais. Voilà, ça, on pourrait commencer à discuter.
Depuis dimanche... Pardon.
Oui. Juste pour finir. Donc en fait, ce qu'on a aussi essayé d'expliquer dans le livre, c'est qu'au niveau auquel on utilise l'énergie aujourd'hui, il n'y en a pas une seule qu'on peut qualifier de propre. Souvent, les énergies, elles sont propres tant qu'on ne s'en sert pas beaucoup. Oui. Mais quand on commence à avoir le champ d'éoliennes comme celui qu'on nous montre en ce moment, ça devient un peu moins propre quand même. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça, le
100%
sujet.
Renouvelable, c'est un fantasme.
Non, ce n'est pas un fantasme. Ça a été la vie de l'humanité jusqu'à il y a 2 siècles. Mais... Par contre, le 100% renouvelable avec le pouvoir d'achat qu'on a aujourd'hui, oui.
Depuis dimanche se tient à Glasgow la COP26, ça ne vous aura pas échappé, conférence internationale qui a été marquée aujourd'hui par une grande marche des jeunes, ils étaient des milliers dans la rue, à réclamer aux chefs d'État et de gouvernement une justice climatique. Parmi eux, Greta Thunberg était présente, la jeune militante s'était déjà fait remarquer à 2 reprises cette semaine, regardez. You can shove your climate crisis up your ass. You can shove your climate crisis, you can shove your climate crisis, you can shove your climate crisis up your ass. Thank you, Greta, for being part of today. So thank you, Minister. Est-ce que vous considérez Greta Thunberg comme une bonne ambassadrice du climat?
Je pense que ce n'est pas la question qu'elle se pose. Je pense que Greta Thunberg est une adolescente écorchée qui crie son angoisse. Elle a été tellement sincère, et par ailleurs, je pense que c'est une fille remarquablement intelligente. Je ne crois pas une seconde qu'elle soit manipulée.
Et qui comprend bien les enjeux climatiques.
Oui. Quand vous voyez la manière qu'elle a de répondre aux questions sur le dossier scientifique lui-même, vous comprenez qu'elle a bossé. Enfin, je veux dire, je pense que c'est une fille remarquable.
Un peu moins sur les solutions.
Alors, les solutions.
Ouais. Elle n'en parle pas beaucoup de ça.
Oui, justement, parce que c'est deux métiers différents, d'être capable de définir le problème et d'être capable de travailler sur les solutions. En fait, travailler sur les solutions demande ce qu'on appelle classiquement de l'expertise. Si je veux décarboner, c'est à vous. Je ne vais pas m'y prendre. D'abord, j'ai un peu moins de viande. Non, je plaisante. c'est évident qu'on ne va pas parler des mêmes choses que si je veux décarboner mon dentiste ou si je veux décarboner les gîtes de France. À chaque fois, on part de quelque chose qui est très différent. Et donc, travailler sur les solutions, ça demande ce qu'on appelle de l'expertise, ça demande du métier. Définir le problème, ça demande juste d'avoir lu la littérature scientifique ou son condensé et de l'avoir compris. Donc, c'est à sa portée parce que c'est une jeune femme intelligente. Mais par contre, travailler sur les solutions, elle n'a pas l'âge et elle n'a pas l'expérience d'avoir vu suffisamment de cas pratiques pour être capable de s'en emparer. Je pense que c'est quelqu'un qui participe utilement à nous botter les fesses. Et elle est dans son rôle. C'est-à-dire qu'elle dit, regardez à l'âge que j'ai, ce qui m'attend. Je pense que c'est une fille qui, à cause de ses particularités et d'une lucidité terrible pour elle, et je pense que c'est une jeune femme qui est en souffrance. Et donc elle nous crie sa souffrance et elle le fait d'une manière qui est particulièrement élaborée parce que c'est quelqu'un d'intelligent.
Et les responsables politiques, ils travaillent assez aux solutions, justement.
Non.
Ouais.
Non. C'est évident que. Alors, c'est évident que non. Alors, vous êtes bien placé sur ce plateau pour savoir que la politique ne consiste pas à prendre des décisions rationnelles, mais à arbitrer des pressions. Donc, en fait, en fonction des gens qui ont défilé dans votre bureau, qui manifestent dans la rue et qui sont susceptibles ou pas de voter pour vous, vous allez prendre des décisions et réfléchir après pour savoir si c'était la bonne. Donc, le monde politique.
La durée aussi.
Ça fonctionne à l'envers.
De court terme.
Ceci va avec cela.
Avec des enjeux à long terme.
Ceci va avec cela. C'est-à-dire que la démocratie a un fonctionnement particulier. Qui est que, en fait, le sondage de la veille a beaucoup plus d'importance que l'étude profonde des dossiers. Et alors, en fait, je vais être un peu discriminé. Vous avez deux catégories dans le monde politique, ceux qui piochent un peu leurs dossiers, mais du coup, ils n'ont pas le temps de venir sur les plateaux de télé, et ceux qui passent leur temps, comme M. Jadot, à venir sur les plateaux de télé et qui, du coup, ne peuvent pas piocher les dossiers.
On ne peut pas faire les deux, c'est incompatible.
Non, on ne peut pas. Enfin, de mon expérience, à l'âge que j'ai atteint maintenant, avec quelques cheveux blancs et d'autres qui manquent.
On voit peu sur les plateaux télé.
C'est vrai.
Je ne suis pas politique, moi.
Oui, non, mais c'est pour ça. Oui, mais c'est aussi.
Alors, par ailleurs, alors, c'est pas du tout pour me. Je refuse 9 invitations sur 10 parce que j'ai une profession et donc, au moment où on me dit c'est demain, c'est après-demain, je suis désolé, je ne peux pas.
Ben, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir parce que vos analyses sont.
Et un privilège.
Ah oui, c'est un privilège parce que lumineuses, extrêmement carrées, ça va vite et on sort de là, un peu angoissé, un peu dans l'état de Greta Thunberg malgré tout. Le Monde sans fin, c'est signé Jean-Marc Jancovici avec les illustrations de Christophe Blain. C'est formidable chez Cédarco, d'Argo. Il faut absolument se le procurer. Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi, qui a un très bon bilan carbone, le petit Mohamed. Mohamed
Babette.
Vous nous présentez ce soir l'une des meilleures profs du monde. C'est pas Jean-Marc Jancovici, non, mais c'est une Française.
Oui, c'est Juline Anquetin-Raux, qui est professeure d'histoire-géographie au Centre de formation des apprentis Simone Veil à Rouen. Ce n'est pas une professeure comme les autres. Julie est en finale du Global Teacher Prize, en clair, le prix Nobel des professeurs, un profil qui a été retenu parmi 8000 candidatures en provenance de 121 pays. Elle fait partie des 10 meilleurs enseignants du monde avec une méthode particulière qu'elle développe depuis plusieurs années et qui semble porter ses fruits, la classe autonome. Cette enseignante fait découvrir Anaïs Recouli et Quentin Schatz sa méthode, celle qui fait d'elle l'une des enseignantes les plus réputées dans le monde.
D'abord, tu t'entraînes avec les cartes, tu les apprends. Et après, tu te auto-évalues. T'interroges toi-même. T'as compris, Alison ?
Vos élèves sont en atelier. En quoi ça consiste ?
Par exemple, si vous voulez faire l'abolition de l'esclavage, vous avez ici la consigne. Vous prenez l'atelier et ensuite, tout est autocorrectif. C'est pour ça que ça s'appelle la classe autonome, puisqu'ils ont des classeurs de correction pour ensuite pouvoir vérifier ce qu'ils ont fait. En tout, j'ai 12 types de matériel différents. On a des casques de réalité virtuelle. On a aussi détourné certains jeux, les poupées russes pour les présidents de la République. On a également des films, des questionnaires sur téléphone, des jeux en ligne. Et moi, je suis là en fait pour les guider, pour aider ceux qui ont plus de difficultés et puis pour valider ensuite que chaque atelier a bien été fait. Mathieu.
Là, j'ai eu du coup, t'as pas eu 12.
Là, t'as eu 10 fautes. Ok. À revoir peut-être si on a le temps.
Vous l'aurez compris, Juline Anquetin-Raux axe ses cours sur le ludique grâce à plusieurs outils qu'elle a créés en intégrant les nouvelles technologies. Elle privilégie la participation active plutôt que les révisions à la maison. Travailler sur les smartphones, de la réalité virtuelle, pas de devoirs le soir. Je vous laisse bien évidemment imaginer qui est la prof préférée du lycée.
C'est vraiment comme nous, on le sent, on fait les ateliers qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut. Puis si on ne comprend pas, on demande et puis elle nous explique un par un.
En fait, le problème avec les autres professeurs, c'est que c'est tout le temps les évaluations, les cours, on n'a pas l'idée ailleurs, alors que là, on a nos téléphones. On ne passe pas notre vie à écrire tout le temps et à ne pas comprendre ce qu'on écrit.
Tu n'as jamais été tenté de tricher un petit peu pour aller plus vite ?
Des fois oui, des fois non. Ça, souvent oui. Souvent, surtout quand c'est des vidéos, je le fais quand même, mais après, je prends la correction aussitôt pour corriger.
Son apprentissage porte ses fruits avec des résultats concrets. 100% de réussite au bac depuis 4 ans et des moyennes en hausse de 30%. Être dans le top 10 des meilleurs professeurs du monde, c'est une première pour une Française. Reste désormais la sélection finale avec 10 professeurs dans le monde. Ça sera le 10 novembre lors d'une cérémonie avec à la clé une dotation exceptionnelle de 1 million d'euros. Et quand on demande à Juline Anquetin-Raux ce qu'elle va faire en cas de victoire avec ce million d'euros, la professeure a déjà une réponse.
Je développe la classe autonome parce que la première fois que je l'ai vue fonctionner, moi je me suis dit il faut surtout pas garder ça pour moi, il faut le diffuser un maximum. Et quand j'ai vu les retours des élèves au fur et à mesure des années qui me disaient mais c'est génial, mais pourquoi on n'a pas toujours appris comme ça. Toute la force de cette pédagogie, c'est qu'elle s'adapte à toutes les matières et à tous les niveaux. C'est juste une philosophie d'un professeur qui se met en retrait, qui construit son matériel et en fait le matériel devient l'enseignant.
Cette sélection au Global Teacher Prize, c'est une belle revanche pour l'enseignante qui a été recalée au CAPES. Et si vous voulez en savoir plus sur la méthode de Juline Anctinro, vous pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube où elle rend les apprentis acteurs de leur formation au quotidien. Alors, vous êtes enseignant aux mines. C'est une méthode révolutionnaire, ça. Ça peut fonctionner aux mines ?
Alors, ça peut fonctionner dans beaucoup d'endroits parce qu'en fait, quand les gens doivent trouver la réponse par eux-mêmes, ils se souviennent beaucoup mieux de ce qu'ils ont appris. En fait, quand les gens sont passifs, ça, c'est un truc qui est bien connu. Hein, quand vous êtes passif, vous retenez beaucoup moins. Et par ailleurs, vous êtes beaucoup moins impliqué. Ça vous intéresse moins, globalement.
Donc. On croise les doigts le 10 novembre.
Bah, vous nous donnerez le résultat. Merci beaucoup, Mohamed. À tout à l'heure pour la Story Média. Marion, c'est le grand retour d'une émission qui avait fait couler beaucoup d'encre il y a 5 ans.
Karine Le Marchand vous propose de découvrir 5 femmes politiques comme vous ne les avez jamais vues.
Et voilà, faire entrer les caméras dans l'intimité des personnalités politiques pour les rendre plus accessibles, ce n'est pas nouveau dans l'histoire de la Ve République, mais c'est Karine Le Marchand, avec Ambition Intime, qui en a fait un concept en 2017 lors de la précédente élection présidentielle. On se souvient ainsi des larmes de Bruno Le Maire, rendant hommage à son épouse, de l'émotion d'Arnaud Montebourg en parlant de sa petite fille née prématurée, ou encore de Nicolas Sarkozy évoquant Carla Bruni. Dans un autre registre, l'émission avec Marine Le Pen avait également fait beaucoup parler, certains accusant l'animatrice de participer à la dédiabolisation du Front National. Marine Le Pen qui, justement, est à nouveau au casting de cette nouvelle saison.
Vous êtes la fille de Jean-Marie Le Pen, qui a été condamnée pour ses propos sur le détail de l'histoire des camps. Quand vous reconnaissez les victimes du Veldiv qui ensuite ont été déportées, c'est évident que les gens se disent qu'il n'y a pas d'acte gratuit. Quelque part, c'est un déni.
D'accord, mais jusqu'à quand ce que je fais ou ce que je dis sera vu en comparaison avec ce qu'a fait ou ce qu'a dit mon père ?
Toute votre vie. Ah ben ça, je suis désolée.
Mais oui, d'accord, mais c'est un moment donné. Je me présente à la présidentielle pour la troisième fois.
Je suis d'accord. Mais si vous étiez...
Est-ce que je continue à être la fille de Jean-Marie Le Pen ou est-ce que je suis enfin devenue Marine Le Pen ?
Ça vous embête quand on vous compare tout le temps à lui ?
Bah, c'est vrai que le jeu des 7 différences, au bout de 20 ans, on commence à en avoir un peu marre, quoi.
Avec un casting 100% féminin, post-MeToo et un féminisme affiché, Karine Le Marchand revient sur le sexisme en politique, à l'image de cet épisode vécu par Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté et fondatrice du réseau Maman Travail qui milite pour améliorer l'articulation vie professionnelle-vie intime.
Où est-on ? Commencer sans vous, la discussion d'un texte de loi, c'est juste mépriser la Constitution, c'est juste parfaitement scandaleux.
On avait fini très tard la veille au Sénat pour débattre d'un texte. J'entre vers 2h du matin et donc je ne sais pas que ma fille est malade. Le lendemain matin, je me relève, j'ai à peine dormi, etc. Et elle me dit « Maman, je me sens mal, j'ai de la fièvre ». Tout parent à son enfant qui a de la fièvre, ben, prend 6 minutes pour prendre la température, prendre un rendez-vous chez médecin, faire le test Covid, etc. Et que j'arrive et que sans même me demander la raison pour laquelle je suis en retard, je trouve que c'est un manque d'empathie terrible.
Alors, dur de se faire une place quand on est une femme. Le genre ne fait pas l'animal politique pour Nicolas Sarkozy, qui revient sur l'ambition, pour le coup pas du tout intime, de Rachida Dati, qui, magistrate, avait fait des pieds et des mains pour le rencontrer.
Elle m'a écrit pendant des mois avant que je la connaisse. Des mois. Et un jour, je l'ai fait venir. Rachida a une élégance fantastique, d'une tenue fantastique. Et en même temps, on voit la petite de banlieue. Hein. Faut pas gratter trop longtemps pour la trouver. J'ai voulu la nommer garde des Sceaux, c'est une grande responsabilité, parce qu'elle était magistrate et... Mais le fait qu'elle soit femme était anecdotique pour moi. D'ailleurs, quand vous voyez Rachida, vous pensez pas spontanément « Oh, la pauvre petite !» Vous voyez un caractère, une force, et c'est ça qui me plaît.
Pour parler ce soir de l'ambition intime des femmes en politique, Karine Le Marchand est notre invitée. Le Marchand.
Namasté.
Namasté. Namasté. Bienvenue à l'occasion de ce nouveau numéro d'Ambition Intime diffusé dimanche sur M6 avec deux candidates officielles, Marine Le Pen à Hidalgo, une candidate
Valérie Pécresse aussi.
Hein. Une candidature à l'investiture des Républicains, Valérie Pécresse, une ministre, Marlène Schiappa, et Rachida Dati, maire du 7e, et pour l'instant, candidate à rien. Pas l'ombre d'un homme, c'est un choix délibéré, on le comprend, mais pour mieux dénoncer le machisme qui est encore trop présent en politique, Karine ?
Au départ, ce n'était pas pour dénoncer, parce que je n'avais pas les réponses à mes questions, évidemment. Je me demandais ce qui était particulier aux femmes ou pas en France. Pourquoi aujourd'hui on n'avait qu'une seule femme qui était à la tête d'un parti politique? Pourquoi on n'avait eu qu'une seule fois une femme Premier ministre qui est restée 11 mois et c'est tout?
Édith Cresson.
Il y a quand même un plafond de verre. Donc peut-être que les femmes s'imposent elles-mêmes ou alors qu'on leur impose. Et c'était important pour moi de voir en fait leur parcours et d'en distinguer les nuances avec les hommes que j'avais pu interroger avant. Ouais.
Cinq femmes de pouvoir, dont Marine Le Pen, que vous interrogez. À nouveau, l'occasion de revenir sur le débat du deuxième tour face à Emmanuel Macron, vu par ses proches.
La veille du débat, elle avait eu une réunion, mais qui s'était terminée tard. On était en fin de campagne. Elle avait eu une migraine ophtalmique. Elle n'était pas dans un état physique top.
Le débat, il n'était pas catastrophique. Il y a eu des ratés, certes. Sur le fond, elle avait raison. C'est sur la forme qu'il y a eu quelques petites choses qui n'ont pas été.
Elle avait décidé d'une stratégie offensive qui a été mal perçue. Elle l'a reconnue.
Les gens ont téléphoné pendant le débat et on me dit « Oui, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle n'est pas bien. » Et comme je savais qu'elle n'était pas bien physiquement, donc ce débat, c'était pour moi horrible.
À ces mots-là, Marine Le Pen a les larmes aux yeux quand elle entend sa mère dire qu'elle ne voulait pas l'appeler, qu'elle voulait la laisser tranquille après se débarrasser.
Oui, après se débarrasser, elle dit qu'elle a mis un an à se remettre effectivement de cette étape qu'elle a ratée. Elle le reconnaît. Je trouve ça courageux d'expliquer comment elle a vécu cette période de l'intérieur. Et c'est peut-être la force aussi de cette émission, c'est que au-delà de se raconter soi-même, ils racontent vraiment de l'intérieur comment ils ont vécu chaque étape de leur progression et ce qu'elles ont pu trouver en chemin qui aurait pu les bloquer.
Ce qu'elle explique, c'est qu'elle n'a pas réussi à démontrer qui était Emmanuel Macron et surtout à ne pas être elle-même. Elle n'était pas elle-même.
Elle n'a pas dit qu'elle n'était pas elle-même. Elle a dit qu'elle n'avait pas choisi de montrer qui elle était, elle et ses idées, mais d'attaquer, d'être donc dans une attitude plutôt offensive que d'expliquer ce que les Français peut-être attendaient de voir. Et puis après, là, on voit bien, elle a fait des traits d'humour qui n'ont pas du tout été compris, où elle parlait des envahisseurs. Et bon, l'humour dans un débat politique entre deux tours, ce n'est pas facile. Elle s'est plantée, elle le reconnaît. Mais ce n'était pas seulement ça que je voulais voir, c'était comment elle l'avait vécu. Quand on arrive à ça du pouvoir suprême, quand on en a rêvé depuis des années, quand les Français vous disent qu'on est à touche-touche dans les sondages, il y a quand même 10 millions de Français qui ont voté pour elle au deuxième tour. Et qu'on a le sentiment qu'elle a tout perdu ce jour-là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quand on défaille là, comment est-ce qu'on le vit et comment on s'en remet.
Elle a accepté d'être filmée dans son jardin, avec ses chats, des séquences jardinage, une révélation. On découvre par exemple qu'elle vit en colocation avec une amie d'enfance qui vous parle, Ingrid. Ouais. Ça dure depuis 5 ans. Une maison dont Marine Le Pen vous dit « il n'y a pas d'hommes, il n'y a que des femmes, même les chats sont des chattes. La différence avec un mec, c'est qu'on ne s'engueule pas. Ouais. » Est-ce que vous craignez que le reproche qui avait déjà été fait il y a 5 ans revienne? Vous humanisez? Vous rendez sympathique Marine Le Pen. Vous contribuez.
Mais pourquoi vous posez la question pour Marine Le Pen et pas pour Valérie Pécresse?
Elle vient
pas pour
la Anne
Hidalgo
question.
Et pas pour...
Non, mais pourquoi toujours les mêmes?
Pourquoi les journalistes vous me demandez est-ce que vous n'avez pas peur d'humaniser Marine Le Pen? Pourquoi vous ne demandez pas est-ce que vous n'avez pas peur
de les rendre sympathiques
Anne Hidalgo? Est-ce que vous
pensez, vous les rendez exemple, toutes sympathiques? Elles paraissent
les rends,
toutes,
mais elles sont toutes humaines.
Elles apparaissent toutes sous un jour favorable.
Mais c'est leur jour à elles, c'est quotidien
le cas d'Anne Hidalgo,
qui m'intéresse.
Par exemple.
Bah bien pareil.
Anne Hidalgo, elle
mais
se
c'est pas des monstres froids. Il va falloir peut-être ça à se dire que les journalistes aussi sont peut-être responsables aussi de cette défiance qu'on a vis-à-vis des politiques à trop vouloir tout le temps les caricaturer. Entre elle est hystérique, elle et c'est un monstre froid, elle décide de tout. Mais en fait, on ne s'en sort pas, c'est-à-dire à tout le temps s'opposer aux politiques et à toujours vouloir les déshumaniser, les gens ne votent plus aussi. Ils ne s'engagent plus forcément non plus dans la politique. Vous avez une Marlène Schiappa qui n'a pas fait l'ENA, qui n'a pas fait d'études après son bac et qui, en 4 ans, a émergé, qui est devenue ministre. Ça, si ce n'est pas un exemple pour les gens, pour les jeunes personnes qui nous regardent et qui veulent s'investir en politique, que ce soit par le terrain associatif, sur une mairie et puis ensuite par leur talent, leur charisme, qu'importe, leur combativité, deviennent ministres. Pour moi, c'est un exemple, et ça dit aux jeunes aussi, vous pouvez vous engager.
Et vous pensez que ça va leur donner envie, pardon, de savoir que Valérie Pécresse aime le brie, ou que
on n'apprend pas que ça, on apprend beaucoup de choses aussi, à mon avis, sur Valérie Pécresse. On apprend qu'elle a dû combattre la misogynie aussi au sein de son, au sein de son, de son parti. On apprend aussi que voilà que c'est pas facile. Pour votre, pour répondre à votre question, est-ce que vous pensez que est-ce que vous vous votez pour quelqu'un qui est la plus sympa? Est-ce que
non,
vous avez envie quels sont les critères de voleur, de valeur et d'élection les critères de valeur et d'élection
c'est pas sur la plus sympa.
Pour les gens, c'est pas du tout ce qui ressort dans les sondages. On a fait un sondage. La sympathie ne ressort pas. On a besoin d'avoir des gens qui comprennent les préoccupations des Français, qui sont capables de tenir leurs engagements. Je sais pas moi, ma perception d'Angela Merkel que je ne connais pas, c'est pas la plus sympa, c'est pas la plus fashion, c'est pas la plus marrante. C'est pourtant une femme qui, après des années de règne, a réussi à gouverner l'Allemagne d'une main de maître avec autorité.
Et qui ne s'est jamais livrée à des exercices.
Parce qu'elle ne me connaît pas. Mais je vous assure qu'elle le regrette. Elle m'a dit Karine, si j'en vais dessus, j'aurais vraiment voulu.
Vous êtes lancée dans une belge.
Même en Allemagne, elle a très très peu d'interviews.
Mais Obama l'a fait. Obama l'a fait. Tous les Américains l'ont fait.
Oui, mais ça, c'est sûr.
Tous les Américains.
Et quand
Rutel Krief fait une interview portrait de Marine Le Pen en lui parlant de ses chats, est-ce que vous le critiquez?
Non, pas du tout. Mais ce qui est intéressant dans cette...
Patrick.
Ce qui est intéressant dans cette émission, c'est que les personnalités se prêtent plus ou moins bien à cet exercice d'intimité, d'exposition, d'introspection, etc. C'est plus ou moins réussi, on le verra en regardant cette émission. Il y en a un qui est, oui, réussi pour le fait d'être à l'aise, le fait d'être...
Moi, je trouve tout à l'aise, hein.
Il y a une personnalité qui avait particulièrement bien réussi l'exercice il y a 5 ans. Je suis allé revoir la séquence parce que ça m'amusait.
François Fillon.
François Fillon. Ouais. Il était extrêmement sympathique. Il vous parlait de sa recette de pâte à la saucisse, d'épilation des sourcils, de sa femme Pénélope, etc. On avait découvert un nouveau Fillon. Et d'ailleurs, juste après son élection à la primaire, il a dit « Cette émission a sûrement contribué à me faire choisir par les participants à la primaire de l'UMP ». 3 mois plus tard, patatras, révélation de presse et enquête judiciaire, on découvre un nouveau Fillon. Qui est beaucoup moins sympathique, en tout cas avec des traits de personnalité qu'on ne lui connaissait pas jusque-là. Mais ma question, elle est simple. Est-ce que vous mesurez dans les interviews que vous faites la part de faux, la part de mise en scène qu'il y a de la part
François Fillon n'a absolument rien dit de mensonger dans son portrait, si vous l'écoutez entièrement. Il n'a jamais rien dit, même par rapport aux affaires qui sont sorties après.
Il dit qu'il a entièrement séparé et cloisonné sa vie politique et sa vie familiale.
Et il dit que sa femme l'a aidé au début.
Mais oui, et ben donc ça compte.
Mais il n'a pas menti par rapport à la réalité.
Ah ben c'est contradictoire avec ma femme était mon assistante parlementaire.
Non, mais il a dit que sa femme, au début de sa carrière, l'accompagnait, mais qu'elle ne le faisait plus depuis longtemps.
Dans les meetings et pour les collages d'affiches.
Et donc, il n'a pas menti.
Ah, ce n'est pas le boulot d'un assistant parlementaire.
Mais donc, il n'a pas menti par rapport à la réalité.
Mais d'une façon générale, sur la sincérité, l'exercice de com', vous arrivez à...
Je n'ai pas posé de question là-dessus, surtout, moi.
Vous arrivez, la question de Patrick, c'est dans quelle mesure on arrive à déceler la part de...
Mais il n'y a pas de truc... Le fait d'accepter de faire cette émission en prime time sur M6 est effectivement quelque chose...
Un exercice de com',
mais comme de venir ici. C'est exactement la même chose. Quand ils viennent ici, c'est qu'ils ont quelque
sincère,
chose...
Je vous sens très sincère, Karine.
Oui, oui. Non, mais quand ils viennent faire des émissions de télé, ils viennent faire un débat, c'est un exercice de com'. Quand ils font des couvertures de gala, etc., c'est de la com'. Quand ils font leur portrait dans le Figaro, c'est de la com'. Attendez, heureusement que c'est de la com'. Quand ils tweetent eux-mêmes, c'est de la com'. Le champion de la communication, qu'on l'aime ou pas, c'était quand même Trump sur le dernier, dans la dernière élection américaine. Enfin, tout est com' maintenant. Justement, c'est ça qui est intéressant. On ne dirige plus aujourd'hui la France comme on l'a dirigée avant.
Alors, l'exercice n'est pas toujours facile. En tout cas, on le voit avec Valérie Pécresse qui a accepté de revenir avec vous sur ce jour de 2016 où son fils a été arrêté en possession de cannabis, une affaire qui avait fait la une des médias.
Il a quand même fait 7 heures de garde à vue. On est allé perquisitionner dans sa chambre d'étudiant. Ils ont monté l'affaire en épingle.
Qui c'est,
Ah ben, des ennemis politiques.
Parce qu'en fait, ça remonte tout de suite à l'Élysée.
Ça a fait l'objet d'un traitement spécifique, et y compris des fuites dans les journaux pour expliquer des tas de choses horribles et faire courir le bruit. Toujours le même sujet.
Mauvaise mère.
Quelques années plus tard, je lui dis, on a quand même été cool avec toi, on t'a pas embêté. Et là, il m'a répondu, mais tu sais, maman, si vous n'aviez pas été cool, moi, j'étais prêt à aller me jeter dans la Seine tellement j'étais mal. Tout ce qui lui est arrivé, c'est à cause de moi. Il n'y a pas un autre enfant qui a vu son nom sur toutes les chaînes d'infos en boucle.
Elle a accepté facilement de revenir sur cette affaire.
Oui, parce que je pense que ça l'a libérée. Alors, vous dites comme. Cette émission, elle est quoi? On raconte des choses extrêmement factuelles. Des choses qui leur sont arrivées. Voilà, personne ne peut démonter les arguments qu'elles mettent en avant. Et après, je leur demande de raconter comment elles ont vécu ces périodes-là. Donc voilà, c'est pas être bon, c'est pas être pas bon, c'est pas le concours à la plus sympa des cinq. C'est aborder ce qui, elles, les touche dans leur vie, dans leur parcours de femme, de mère et de femme politique, parce que tout est mélangé. Mmh. Voilà, oui, c'est tout. Il faut jongler avec tout ça.
On va regarder un autre extrait, c'est Anne Hidalgo et sa sœur qui vous ont raconté leur arrivée en France venant d'Espagne.
Je me souviens, j'ai des odeurs de train, des flashs qui me reviennent. On atterrit dans ce grenier, rue de la Charité, ça ne s'invente pas, à Lyon. Il n'y avait qu'un matelas au milieu et puis une petite lucarne en haut. Quand on a le vécu soi-même de ce chemin qu'est l'immigration, on sait qu'on ne quitte pas son pays d'origine de gaieté de cœur, c'est un arrachement.
Ma soeur est complètement concernée par tous ces problèmes d'immigrants. Les gens ne se rendent pas compte. Ils croient que quelqu'un va se mettre dans un petit bateau en bois qui tient à peine sur l'eau avec un enfant sans savoir nager. Mais ils croient qu'ils font ça par plaisir. C'est n'importe quoi.
Elle va me faire pleurer.
Ah oui. Elle est très différente, Anne Hidalgo, des dernières séquences où on l'a vue un peu cassante, d'ailleurs. Est-ce que vous la trouvez à son avantage au cours de l'émission ?
Ah oui, je l'ai trouvée elle-même. Ça dépend des sujets.
Ouais.
Moi, je l'ai pas trouvée cassante du tout dans le portrait. Je
non, pas là. Non. Les dernières séquences en dehors d'Ambition Intime, pardon.
Ah,
les
récemment.
Les dernières séquences médiatiques, oui, pardon.
Mais c'est un autre exercice. Quand on vient sur une émission politique où on sait qu'on va débattre, faut qu'on va avoir face à soi pas un opposant, mais en tout cas quelqu'un qui va chercher la petite bête ou vous mettre face à des contradictions ou vous essayez de vous piéger, je ne pense pas qu'on soit serein pour parler avec le sourire de soi-même et parler de ses émotions. Mais même les studios de télé habituels ne s'y prêtent pas.
Donc là, ils se mettent déjà en condition quand ils viennent vous voir, en fait.
Je travaille 6 mois avec elles, avec leurs proches. Je les vois plusieurs fois. C'est long à faire. C'est une émission qui ne pourrait pas se faire sur un temps court, en fait.
Une ambition intime, oui, pardon.
Non, je veux dire, au début, Anne Hidalgo ne voulait pas.
Oui.
Elle ne voulait même pas me prendre au téléphone. Et vraiment, j'ai ramé pour la voir. Elle, c'était comme qui ?
Comme Angela Merkel.
Comme Angela. Angela qui regrette. Et donc, finalement, j'ai réussi à la voir. Et quand je lui ai vraiment expliqué mon point de vue, elle m'a dit OK. Mais ensuite, elle m'a dit mon mari ne témoignera pas, ma mère ne témoignera pas, ma sœur ne témoignera pas, etc. Je dis bon, on va se débrouiller, on dit oui. Et puis finalement, à force de
vous avez tout, le mari, la sœur, la mère.
Ben oui.
Une ambition intime, c'est dimanche 7 novembre à 21h05 sur M6. C'est à voir. On continue avec le 5 sur 5 de Mathieu Béliard, au pas de charge, puisqu'on est. On a perdu un temps.
Mais c'est
fou
ben oui,
avec,
c'est ça, c'est au pas de loin, même comme dirait Angela.
Bonsoir Mme,
Mathieu.
Bonsoir à toutes et à tous.
Le ministère de l'économie et des finances a mis 300 biens aux enchères ce matin.
La GRASC, l'agence de gestion et recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui dépend de Bercy. 300 lots aux enchères ce matin, des objets saisis ou confisqués par la justice à des délinquants, des malfrats, toutes sortes d'objets en réalité. Il y a un vélo qui était mis à prix à 30 euros, un thermomix, des chaussures, des jeux vidéo, mais aussi bien sûr cette Lamborghini Aventador dont Bertrand Chameroy vous a montré des images hier soir. Nous étions à la vente ce matin, Iban Raïs et Anaïs Recouli ont eu droit à une visite guidée avec le directeur de la GRASC.
Il y a des bouteilles, des Romane Conti, des Petrus, qui sont les plus grandes bouteilles, les plus grands flacons français, hein, on peut le dire. Puis ensuite, nous avons ici de la maroquinerie de luxe, hein, des sacs de différentes marques. Alors là, c'est une affaire de trafic de stupéfiants du tribunal judiciaire de Toulouse. Lingot. Puis palladium, qui est le métal précieux le plus cher, hein, aujourd'hui. Et puis, je voulais juste terminer en vous montrant notre plus belle pièce de joaillerie. C'est un magnifique diamant. Et ce dossier est typique, c'est une affaire d'escroquerie. On a un certain nombre de victimes et le produit de la vente de ce magnifique diamant permettra d'indemniser les victimes dans le dossier considéré.
Vous avez
Objectif. Moi, je veux dire que les yeux brillaient sur le plateau en voyant le diamant, hein, quand même. On trouvait aussi beaucoup de montres, figurez-vous.
C'est pas un peu misogyne, cette réflexion.
J'ai dit sur le plateau, pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas dit qu'il était beau, le diamant, pendant le magnéto? Moi, je parlais d'Eva. Je reconnais Eva. On trouvait aussi beaucoup de montres. Les malfrats portent leur blanchiment au poignet, nous disait aussi le directeur de la Grasque. Alors, je sais que l'objet qui attire l'œil, l'oreille, mais qui est devenu la fameuse Lamborghini, on va en parler, nous avons assisté à la vente.
La mise à prix pour cette voiture est à 150 000 euros.
150 000.
225 000 sur le net, merci Thomas. 226 000 avec monsieur au fond de la salle.
227.
227 sur le net.
227.
J'ai tapé à 227.
Vous êtes un petit peu déçu de ne pas l'avoir eu, ou alors c'était un petit peu au-delà de vos attentes, le prix?
Non, c'est pas au-delà de mes attentes, mais c'était vraiment au-delà du marché. Donc je suis déçu. Pas déçu, non. L'État a gagné beaucoup d'argent aujourd'hui, mais clairement, quelqu'un a perdu beaucoup d'argent en achetant cette voiture à ce prix-là.
Pas de regret.
Pas de regret.
227 000 euros, prix final pour l'objet star de la vente, hein, qui était mis à prix à 150 000 euros. Elle appartenait à un homme condamné dans une affaire de travail dissimulé. Une question de moralité qui s'est posée aussi pendant les magnétos. Il faut savoir que l'argent récolté sert autant que possible en lien avec les crimes et délits. Exemple simple, des voitures de dealers dont le fruit de la vente ira au stup, par exemple.
Jean-Luc Lahaye, déféré devant un juge d'instruction, il pourrait être mis en examen.
Le chanteur star des années 80, qui à 68 ans occupe plus régulièrement la chronique judiciaire que le Top Album, il vient de passer 2 jours en garde à vue pour viol et agression sexuelle sur 2 mineurs de plus de 15 ans. La Fondation pour l'enfance va se constituer partie civile et ce n'est pas la première fois.
On l'avait déjà fait en 2015 en se constituant partie civile dans la deuxième condamnation de Jean-Luc Lahaye, puisque ce n'était pas la première, il avait déjà été condamné en 2007. La Fondation pour l'enfance, qui a été créée par Anne-Émone Giscard d'Estaing en 1976, quand elle était première dame de France, depuis un peu plus de 40 ans, me demande de me constituer partie civile dans tous ces dossiers de pédophilie ou d'images pédopornographiques. Donc nous allons renouveler cette constitution partie civile entre les mains du magistrat instructeur qui a été désigné aujourd'hui.
Deux femmes portent plainte. Leurs mères ont également été interpellées. Des fans de Jean-Luc Lahaye qui auraient encouragé leurs filles à avoir des relations avec le chanteur. Elles les auraient aussi dissuadées de porter plainte. En 2015, Maître Baratelli, que vous venez d'entendre au micro de Louis Amar et la caméra de Camille Schmitt, avait demandé une injonction de soins au tribunal. Au regard de cette nouvelle enquête, de ces nouvelles accusations, il regrette qu'elle n'ait pas été prononcée.
À l'époque, une expertise psychiatrique avait déjà eu lieu. Elle avait de mémoire considéré que Jean-Luc Lahaye devait, et nécessairement, je crois que j'utilise le terme adéquat, nécessairement suivre une thérapie lourde pour éviter une réitération des actes. Il eût été préférable, à mon sens, compte tenu des faits que nous connaissons aujourd'hui, qu'une injonction de soins soit prononcée, mais il n'appartenait qu'à Jean-Luc Lahaye de la suivre. L'aurait-il fait pour autant? Ça, c'est une autre histoire.
Donc il n'y a pas eu de faille?
Non, il n'y a jamais de faille judiciaire. Ce qui conduit quelqu'un devant un tribunal, c'est d'abord son comportement. Le comportement de Jean-Luc Lahaye est un comportement, je vais dire, à répétition. Il a été condamné en 2007, il a été condamné en 2015, il est à nouveau en garde à vue aujourd'hui, doit être déféré devant un magistrat instructeur. C'est d'abord Jean-Luc Lahaye qui doit se regarder dans une glace.
L'aurait-il suivi cette injonction de soins? C'est une vraie question. Nous avons retrouvé cette archive en 2015, la réaction déjà de Jean-Luc Lahaye lorsqu'il était condamné pour corruption de mineurs.
C'est une parodie. Une parodie de procès. Cette condamnation se résume à 1 an de prison avec sursis parce que je m'appelle Jean-Luc Lahaye et qu'il y a un tarif applicable à Jean-Luc Lahaye.
3 ans plus tard, 2018, écoutez cette question que pose Marc-Olivier Fogiel au chanteur et sa réponse, clairement, il assume.
Est-ce que vous vous dites, cette fois-ci, on ne m'y reprendra pas? Vous aviez déjà eu une affaire dans le passé. Est-ce que vous vous dites, à un moment donné, mon attirance pour des jeunes filles, que vous pensiez majeures, peut-être qu'à un moment donné, il faut que...
Que je me tape Julie Pietri? Non, merci. Non, je rigole. J'ai toujours dit, et je le maintiens, que ma préférence va plutôt vers une fille de 20 ans que de mon âge. Oui, c'est légitime et le législateur ne s'opposera pas à ça. C'est aussi ma façon de prolonger une séduction fanée, peut-être, une jeunesse perdue, mais c'est comme ça. Et puis, j'ai toujours aimé les filles plus jeunes que moi, peut-être le syndrome de Lolita, tout ce que vous voudrez, mais c'est comme ça. Je ne suis pas le seul.
C'est troublant, hein?
C'est troublant. Justice toujours, un mot vous a interpellé ce matin dans l'actualité, Mathieu.
On va changer de ton, radicalement. Dans les journaux, à la télé, à la radio, voilà quelques jours qu'on se croirait retourner en enfance. parfois l'absurde et les infos se croisent. On est... Il s'agit d'un collectif de rappeurs hors la loi qui s'appelle les Dalton, rayures jaunes et noires. Ça fait plusieurs jours qu'on les retrouve dans nos journaux. Et, écoutez ces extraits.
Avec Lucky Luke, les Dalton, vous le savez, c'est ce groupe de rap, de rappeurs lyonnais.
Ceux qui se font appeler les Dalton, ce sont les membres d'un groupe de rap qui se livrent à des provocations depuis des semaines maintenant.
Vous les avez vus, ils narguent la police, masqués, cagoulés et donc déguisés. Ils se sont illustrés par de nombreux rodéos urbains que l'on retrouve notamment dans ce clip. Leur clip, qui a valu à l'un de ces rappeurs lyonnais, Mani GT, d'être condamné à 9 mois de prison ferme pour les rodéos, mais aussi pour détention d'armes, celle que vous avez vue dans le clip. Vous croyez que ça aurait clos le dossier ? Détrompez-vous. Les Dalton ont publié un nouveau clip, introduit par le fameux Mani GT, qui s'est filmé depuis la prison.
Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai fini en détention pour les Daltonins. Mais vu qu'on est déterminés et qu'on est des vrais Dalton, je vous présente les Dalton 2.
Oula. Ceux des Dalton qui sont en liberté ne se cachent même pas. Ils ont répondu à des journalistes lyonnais au magazine Lyon Mag.
Ils ne sont pas du tout arrêtés. Parce que si on se met à arrêter maintenant, ils ont déjà mis deux collègues à nous du groupe effectif des Dalton en prison. Donc ça leur donnerait raison d'arrêter maintenant. Nous, pour nous, les rodeux urbains, il n'y a rien de mal. Nous, ce qu'on fait, c'est de la musique et on fait tout pour plaire aux gens et dans le milieu artistique.
On comprend l'agacement des forces de l'ordre. Dernier épisode en date, celui qui les remet dans l'actualité ce soir, c'est cette intrusion au Groupama Stadium hier, en plein match de l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa. Ils sont deux, âgés de 15 et 20 ans.
Merci Mathieu. Une méga star, à la voix exceptionnelle, une attitude reconnaissable entre mille, les jambes un peu écartées, un bras en l'air, les genoux pliés, une main qui fait semblant de gratter une guitare, un poing sur le cœur, une vraie bête de scène.
Et nous, pourquoi il ne nous dit pas bonsoir ? Bonsoir, Junior !
Ah ? Tu vois, t'as entendu ?
Chez-moi, les foules se balancent et les voix gratent le ciel. Les eaux de tous sont les lances et les neiges sont étonnées. Chez-moi, les loups sont à la porte.
Bonsoir Valérie Lemercier. Bravo. Vous êtes bluffante dans ce vrai faux biopic consacré à Céline Dion que vous avez rebaptisé Aline Dieu. Pour être plus libre, pour avoir plus de liberté.
Oui, mais... pour inventer des choses, rendre les choses plus, avec plus de fantaisie, mais vous plus avez... de romance, plus de... d'invention personnelle. Voilà.
Beaucoup d'humeur, mais vous avez fusionné, on a le sentiment que vous avez fusionné avec Céline Dion. Hein, c'est incroyable, je me demande si elle ne réapparaît pas des fois comme ça dans votre vie le matin sous la douche.
Non, mais c'est vrai que de temps en temps, moi je ne la vois pas tant de secondes que ça. Je dirais, je la vois peut-être 20 secondes, moi.
Dans le film ?
Oui.
Ah ouais, non. Mais là, de dos, par exemple, quand vous avez les jambes bien écartées, le bras en l'air, c'est dingue. Moi, j'ai vu Céline Dion. Enfin, j'ai vu Céline Dion.
J'ai regardé ses mains, ses jambes. J'ai beaucoup regardé. Donc après, c'est revenu. Enfin, c'est venu assez facilement. Enfin, ce que je veux dire, je n'ai pas répété devant
non,
des miroirs.
Elle était là, quoi.
Elle était là. J'y ai mis mon petit cœur, mon grand corps. J'ai essayé d'être elle un peu. Voilà.
Et vous imitez surtout beaucoup d'amour, parce qu'on comprend mieux l'histoire d'amour entre elle et son René, Guy Charles.
Non, Guy Claude.
Guy Claude. Il y a des prénoms composés à coucher dehors dans
J'ai
ce film.
J'ai entendu Guy Georges, donc ça va. C'est mieux.
On continue à en parler dans un instant. Ouais. Aline, ça sort au cinéma la semaine prochaine, c'est génial. Ouais. Merci Carnet Marchand. Ambition Ultime, dimanche sur M6. Jean-Marc Jancovici, la BD du moment. Yes. Le monde sans fin chez Dargaud, je l'ai offert à Karine de votre part. Mathieu, vous restez avec nous, c'est obligé pour Aline. A tout de suite avec Valérie Lemercier et Céline Dion.